France Inter, le 18-20.
Le comité d'éthique a un avis consultatif. Il reste un processus législatif à mener qui peut d'ailleurs s'avérer douloureux ou bruyant. Donc en théorie, rien n'est fait, mais le fait est que la voie est ouverte pour beaucoup de choses, notamment la PMA autorisée aux femmes seules et aux couples de femmes. Le comité d'éthique a donc donné son aval, tout en ajoutant sur cette question et sur d'autres aussi, on y reviendra. Le comité n'a pas atteint le consensus, mais un assentiment majoritaire. Et c'est là que commence la base de travail. Il y a d'autres questions passionnantes qui mobilisent la société, nous poussent à réfléchir, y compris d'ailleurs contre nous-mêmes, la fin de vie. L'avis du comité, c'est de ne pas changer les lois Claeys-Leonetti, tout en reconnaissant qu'il existe des situations auxquelles la loi ne sait pas répondre. La levée de l'anonymat sur les dons de sperme est également sur la table, ce qui serait une forme de petite révolution. L'autoconservation des ovocytes, sujet sur lequel le comité a évolué, dit-il. La recherche notamment sur les embryons surnuméraires. Sur tous ces sujets, c'est vrai que la PMA crispe aujourd'hui. Une consultation avait été lancée, les fameux états généraux de la bioéthique. On verra d'ailleurs sur ce sujet comme sur d'autres en quoi il est peut-être parfois vain d'essayer de dégager des majorités sur ces questions-là. On verra aussi si on est parti sur des débats qui pourraient être violents aussi. Ça, on le verra dans les mois qui viennent. J'espère en tout cas que ce soir, avec le président du comité d'éthique, on aura l'occasion d'approcher beaucoup de ces sujets abordés. La société bouge. Comment l'accompagner au mieux dans ces mouvements? C'est tout l'enjeu de ce soir et soyez les bienvenus au téléphone.
Fabien Sintès. Le téléphone sonne.
Éric, bonsoir, c'est vous qui commencez. Soyez le bienvenu.
Madame, bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Je veux simplement témoigner du fait que j'ai vécu la fin de vie de mon père scandaleusement mal accompagné par les soins palliatifs, 3 semaines sans visite, au terme desquelles mon père s'est suicidé avec une arme de famille. Il est mort d'un cancer du poumon et d'une métastase osseuse, visible sur des radios qui n'ont pas empêché qu'on l'opéra à l'époque d'un genou, hein, sans nous en avertir. Alors, la confiance que nous réservons dans la famille à la médecine est relativement limitée, et la confiance et nous estimons par ailleurs que nous devons être libres de mettre fin comme selon notre désir lorsque la souffrance nous semble insupportable. Moi, mon regret pour mon père, c'est d'avoir fait confiance à la médecine française et de ne pas avoir pris la décision de l'emmener en Suisse pendant qu'il était encore transportable. Voilà, je m'arrête là parce que on pourrait en discuter. Enfin, je pourrais vous faire une dissertation.
Éric,
de plusieurs
pardon, je voudrais juste savoir de quelle période vous parlez, en fait. Ça s'est passé à quel moment? Est-ce que c'est très récent?
Ça s'est passé il y a 2 ans.
D'accord, ok, d'accord. Donc après voilà. L'entrée en vigueur des lois Claeys-Leonetti, c'était le
bien
sens
sûr,
de ma question.
Oui.
Merci beaucoup, Éric.
C'est la raison pour laquelle je tenais à vous appeler.
Eh bien, écoutez,
enfin, je vous ai envoyé un message.
Et vous avez appelé, c'est le principe du téléphone.
Il y a 2-3 fautes d'orthographe.
C'est pas grave. Merci beaucoup, Éric, et merci de cette entrée en matière aussi. Jean-François Delfraissy est avec nous pendant jusqu'à 20h. Donc pour répondre à toutes ces questions, discuter aussi de ce qui s'est dit au sein de ce comité consultatif national d'éthique. Vous en êtes le président, professeur Delfraissy. Ce que j'ai lu, moi, quand on parle de fin de vie dans ce que vous avez écrit, c'est que on ne change pas Claeys-Leonetti et en même temps, il y a un certain nombre de cas auxquels Claeys-Leonetti ne répond pas. Est-ce qu'on peut imaginer que le cas d'Éric, l'extrême souffrance de son père apparemment, fait partie de ces cas dans lesquels la loi Claeys-Leonetti est un peu floue, on va dire?
Bon, merci pour ce témoignage douloureux, hein, mais qui reflète finalement ce que pense la majorité des Français qu'on a entendu lors des états généraux, c'est que on meurt mal en France. On est un grand pays et on meurt mal dans ce pays. C'est un constat. C'est un constat qui est, vous l'imaginez, difficile pour moi qui suis médecin, d'entendre ça, mais c'est une réalité. Alors, derrière ça, il y a aussi le constat que la majorité des décès surviennent chez des personnes âgées, chez nos anciens, et que c'est particulièrement difficile parce que on associe à la fois la prise en charge difficile déjà des personnes âgées en EHPAD, de voir la discussion qu'on a déjà eue, et avec des conditions de fin de vie qui sont complexes. Et enfin, on a une loi qui est récente, qui n'est pas connue, qui n'est pas appliquée, qui n'est pas suffisamment appliquée par les équipes médicales, mais qui est quand même très présente et qui a été une avancée indiscutable dans le domaine. Et donc, le Comité national d'éthique a entendu tout cela et se dit que, voilà, il est urgent de mettre en place cette loi, avant peut-être de légiférer. En France, on adore légiférer, mais de la mettre en place et qu'elle soit appliquée. Que les moyens soient appliqués. On nous donne souvent comme exemple deux pays à côté, la Belgique et la Suisse. Mmh. Mais on devrait aussi nous dire qu'en Belgique et en Suisse, les moyens donnés aux soins palliatifs et les prises en charge autour des soins palliatifs sont dans de bien meilleures conditions qu'elles ne sont en France.
Daniel, pardon, monsieur Delfraissy, finissez, pardon.
Et donc, voilà, il y a aussi des situations extrêmes dont faisait peut-être partie votre père, ça serait analysé, qu'on ne connaît pas encore totalement bien. Est-ce qu'elles sont nombreuses? Est-ce qu'elles sont qualitativement chiffrables? Des sujets jeunes, avec des atteintes neurologiques dégénératives. Est-ce que la loi Néonetti, même si elle est complètement appliquée, ne permettrait pas de répondre à cette question? On n'a pas totalement la réponse.
Non, mais enfin, il y a quelques exemples.
Et donc,
exemples...
à ce moment-là, voyons ce sujet, mettons-le sur la table, et puis, s'il faut ensuite modifier la loi pour une extrême minorité, pourquoi pas, hein? Je veux dire, on n'est pas... Il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est avançons déjà dans les conditions générales. Et puis ensuite, voyons ce qu'il en est. Après, la discussion sur est-ce que on est libre de son décès? Est-ce que le soin individuel, finalement, de choisir sa mort, alors indépendamment même pour certains d'une pathologie terminale, par rapport à une vision collective du respect de l'individu, là, c'est un autre sujet.
Daniel Messager, qui est là aussi avec nous autour de la table pour intervenir, Daniel.
Vous insistez d'ailleurs beaucoup dans votre avis et lors de la conférence de presse ce matin sur le fait que cette loi n'est effectivement pas bien appliquée, qu'elle n'est pas bien connue. Donc on est quand même en droit de s'étonner, c'est pas vous le responsable, hein, mais on est quand même en droit de s'étonner que plus de 2 ans après le vote de cette loi Claeys-Leonetti, elle soit aussi peu connue par les médecins. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réfractaires à cette loi? Qu'elle ne soit effectivement pas par les pouvoirs public davantage aidé pour être mise en place, que les médecins ne soient pas davantage formés. Et puis, il y a aussi, sur des questions pratiques, des problèmes liés à cette loi. Vous savez, quand il y a une loi pour qu'elle soit appliquée, pour que les médecins sachent exactement ce qu'ils ont à faire, par exemple, dans le cadre de la sédation profonde, et continue jusqu'au décès. Je ne sais pas si le monsieur dont il était question relevait de ce cas ou pas. Mais, par exemple, la Haute Autorité de Santé a émis des recommandations qui sont, à l'avis de nombreux médecins, trop strictes. C'est-à-dire, elles disent, à l'avis, à l'annonce de la mort,
enfin, arriver à une extrémité.
Arriver à une extrémité qu'elle détermine très précisément, qui va de quelques heures à quelques jours. Et pour les médecins, ce n'est pas possible d'avoir un encadrement aussi strict. Donc, souvent, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils se disent, du coup, je ne suis pas dans les recommandations et je ne suis pas dans le cadre de la loi. Donc, faudrait pas faire une loi et ensuite l'encadrer de façon trop stricte pour que les médecins ne puissent pas l'appliquer. Il y a quand même des choses à revoir aussi, à ce niveau-là.
Alors, sur le fait que la loi ne soit pas connue et suffisamment connue à la fois de nos citoyens, puisqu'ils ont cette possibilité de prise de décision, et aussi des équipes soignantes, et en particulier des équipes médicales, je dis bien en particulier des équipes médicales, eh bien oui, on insiste là-dessus. On réclame un plan soins palliatifs. Et dans le plan soins palliatifs, c'est pas seulement y mettre des moyens, c'est-à-dire, c'est aussi y mettre des moyens pour la création de lits supplémentaires, pour la création de services de soins palliatifs en dehors de l'hôpital, pour la création probablement d'un certain nombre de postes, c'est pour visualiser, je dirais, ce que sont les soins palliatifs de professeurs dans la discipline. Mais c'est aussi d'avoir une incitation extrêmement forte et de considérer que c'est une priorité maximum pour chacun d'entre nous, puisque c'est un questionnement de la société qui est autour de nous. Bon. Après, sur un certain nombre de points pratiques, vous avez soulevé les recommandations de la HAS, il y a d'autres points, c'est la non-disponibilité d'un certain nombre de médicaments en ville, par exemple, pour aboutir à une sédation profonde. Là aussi, il y a une série d'efforts à faire. Il faut que ça soit une vraie volonté et avec une formation ad hoc autour de ce sujet.
Mais enfin, quand même, vous parlez de cas particuliers. On a tous en tête le cas d'Anne-Bert, par exemple, qui avait médiatisé, elle l'avait fait exprès. Elle a écrit un livre qui est magnifique, d'ailleurs, sur son désir de mourir en Belgique. À ces questions-là, on ne veut pas répondre. Nous, on ne veut toujours pas répondre en France, en fait.
À cette question-là...
Parce que ce n'est pas une question de soins palliatifs, des cas comme ceux d'Anne-Bert.
Je pense qu'il y a vraiment deux sujets. Et nous avons abordé avec le CCNE le premier sujet. C'est comment améliorer la prise en charge de la fin de vie en France. Hein, et c'est une vraie première grande question. Il y a une deuxième grande question que j'évoquais, que je n'élite pas, et sur laquelle on aura l'occasion de revenir au sein du comité. C'est finalement, est-ce que notre fin de vie nous appartient totalement, voilà. Et est-ce que on peut aller jusqu'à réclamer un suicide assisté, d'une part, et une euthanasie, alors même que vous avez, au niveau de divers plans et d'un certain nombre d'orientations médicales, au contraire, de prévenir le suicide. Donc vous voyez les incohérences dans lesquelles on peut rentrer.
Alors en même temps, on ne va pas se lancer dans ce genre de débat, mais si notre fin de vie ne nous appartient pas, à qui appartient-elle? Voilà, vous avez 4 heures. Non mais c'est vrai, ça soulève quand même des questions qui sont d'une très très grande lourdeur. Et évidemment que tout ça est compliqué, ne se résume pas en quelques secondes. Allez-y Daniel,
peut-être que le deuxième chapitre. Oui, peut-être que le deuxième chapitre que vous évoquiez qui pourrait être écrit, c'est justement cette définition de la fin de vie, puisque vous citiez, Fabienne, le cas de Anne-Bert, effectivement, qui n'était pas en fin de vie quand elle demandait à ce qu'on l'aide à mourir. Elle n'était pas en fin de vie, bien qu'on sache qu'elle ait une maladie incurable, que cette maladie, elle n'en guérirait jamais, qu'il ne se passerait rien pour elle. Et voilà, quelle est cette définition de la fin de vie et à quel moment l'assitutons, ça se pourrait être effectivement le deuxième chapitre à écrire.
C'est bien pour ça que j'ai laissé le deuxième chapitre, vous l'avez vu, beaucoup de sujets sur la table, et que le premier chapitre nous a paru prioritaire, en tout cas dans un premier temps, c'est comment tenter, avec un certain nombre de mesures, d'améliorer la fin de vie pour l'immense majorité de nos concitoyens. Ensuite, reste un certain nombre de cas très particuliers sur lesquels il faut qu'on se remette à travailler.
Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu sur France Inter, Adrien.
Merci beaucoup. J'avais une question concernant la levée possible de l'anonymat en ce qui concerne les futurs donneurs de gamètes. J'ai 40 ans, j'ai été conçu dans un SECO 177 et j'ai brisé un secret de famille à 40 ans. Ça fait de moi et d'un certain nombre d'autres personnes, des personnes, on va dire, non préparées à ce type de nouvelles. Le rapport préconise de pouvoir lever l'anonymat des futurs donneurs pour les enfants qui naîtront à l'avenir de ces dons, mais ce qui serait quand même une avancée majeure, mais il néglige des générations précédentes qui ont été conçues dans les sécos et à qui on a dit aux parents « ne dites jamais ». Or, aujourd'hui, les sécos recommandent autre chose, c'est d'en parler à l'enfant dès le plus jeune âge.
Merci.
Et donc, ça crée des générations de personnes qui sont un petit peu livrées à eux-mêmes et qui recourent à des tests ADN à l'étranger. Et c'est le seul moyen qu'ils ont. Pourquoi ne pas envisager une solution globale avec des systèmes de double guichet? Il ne s'agit pas de s'introduire dans la vie de quelqu'un et de réclamer quoi que ce soit, mais simplement d'envisager le problème de manière globale.
On a bien compris le sens de votre question, Adrien. Merci beaucoup, Jean-François Delfrécy. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'un retour en arrière ou pas?
Oui, bien sûr. Ce problème du retour aux origines, de l'accès aux origines, est un point qui illustre bien la complexité finalement de la réflexion éthique. On est avec un dogme qui repose sur l'anonymat du don, sur lequel sont construits les sécos avec des choses merveilleuses qui ont été réalisées depuis 30 ans. Et soulignons l'importance du don de sperme qui est encore insuffisant en France. De l'autre côté, on a pour un certain nombre de personnes de plus en plus jeunes. Qui connaissent maintenant, il a d'ailleurs pas fallu de loi pour qu'il y ait une modification. Au début, il y avait en effet un silence, puis ensuite on l'a dit relativement tardivement, et maintenant les parents le disent plutôt au moment de l'adolescence. Il n'y a pas eu besoin, dans cette position extrêmement intime, de texte législatif pour le faire. C'est la société qui l'a décidé. Et puis enfin, on a la technologie qui arrive avec ce que vous évoquez, monsieur, c'est-à-dire les banques de ADN et les banques, les grandes banques de big data. Et qui permettent, peut-être pas aussi facilement qu'on veut bien le dire, mais qui sont un premier pas en tout cas pour permettre d'avoir un accès aux origines. Bon, donc c'est vrai que nous avons considéré que il fallait ouvrir ce chapitre. C'est déjà une décision importante qui ouvre des perspectives difficiles et délicates. Que il fallait le faire en prospective parce que là, on avait une annonce par rapport au futur donneur, que le faire en rétrospectif, les donneurs d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans...
On leur avait promis l'anonymat.
On leur avait promis l'anonymat. Hein. Donc, on n'allait pas avec un avis. Mais moi, je pense que une fois de plus, voilà, je fais confiance. J'ai demandé finalement que la loi de bioéthique soit une loi de confiance, hein, et pas une loi d'interdit ou au contraire de savoir-faire. Si on trouve le bon moyen, la bonne mise en place avec les textes ad hoc, pour se lancer, en effet, dans une levée de l'anonymat, sans trop faire baisser le nombre de donneurs, hein, qui est quand même l'autre enjeu de l'autre côté.
Parce qu'on va rappeler les chiffres,
monsieur Delfrécy. Très progressivement, la question que vous posez, monsieur, eh bien, elle va commencer à se poser de façon plus globale. Et donc, il va y avoir une évolution sans forcément passer par la loi.
Le chiffre des dons par an, Daniel, il faut le rappeler, est trop faible par rapport à ce qu'il devrait de toute façon être.
Oui, il y a autour de 250 donneurs de sperme par an. Il en faudrait déjà, à l'heure actuelle, plusieurs dizaines de plus pour satisfaire aux demandes. Donc effectivement, la question peut se poser de savoir ce qui va se passer après quand les demandes vont être bien plus importantes. Et vous le soulignez d'ailleurs dans votre avis, vous dites, il va falloir anticiper. Donc anticiper, ça veut dire sensibiliser. Je ne sais pas comment vous l'entendez, mais ça peut être sensibiliser la population aux dons de sperme, comme aux dons d'ovocytes d'ailleurs, ce qui n'est pas trop le cas jusqu'à présent.
Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on sait qu'il va y avoir une chute dans un premier temps du nombre de donneurs, que ça va inquiéter, entre guillemets, si on regarde ce qui s'est passé en Angleterre ou en Hollande, par exemple, puis ensuite qu'il y a une remontée progressive. On sait également que le profil des donneurs a changé. Il a déjà changé depuis 10 ans. Ce n'est plus tout à fait le même profil. Et qui peut changer à la suite de cette ouverture. Donc, anticiper, c'est en effet prévoir des campagnes d'information, de la même façon que ça a été fait sur le don d'organes, et bien qu'on aille plus loin, que l'Agence de biomédecine s'engage dans cette direction, qu'elle ait les moyens de le faire pour de grandes campagnes nationales autour du don. Car, soulignons mieux, et c'est merveilleux le don, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on doit reconnaître. Et un don qui était avec les deux grands dogmes, anonyme et gratuit. Nous restons dans un modèle de la gratuité en France, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans d'autres pays européens ou dans d'autres parties du monde.
Et il faut souligner que vous ouvrez le choix, c'est important de le rappeler quand même, vous ouvrez le choix au donneur de donner son nom ou pas, en fait.
C'est-à-dire, une fois que l'ensemble de la procédure aura été réalisée, il faut qu'on puisse poser la question au donneur. Soit il le donne, il souhaite le donner, soit il ne souhaite pas le donner. Et là, il y a un certain nombre d'informations générales qui peuvent être données au demandeur, qui lui permettent de situer un peu de il est le fils de qui au plan biologique, entre guillemets, mais sans rentrer directement dans un dialogue avec le donneur.
Cécile, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, Cécile.
Donc moi, je voulais vous poser la question donc dans la continuité. Donc vous dites que la révélation de l'identité, elle est conditionnée par la volonté donc du donneur. Et qu'est-ce que vous entendez par volonté du donneur? Et est-ce que vous allez tenir compte de la volonté des enfants qui sont issus de ces dons, qui sont en majorité maintenant, enfin une grande partie est adulte aujourd'hui?
Merci pour votre question, Cécile. Jean-François Delfrécy, un peu pour réexpliquer comment ça va fonctionner justement.
D'abord, c'est une prise de position, je dirais, de globale, c'est-à-dire de donner une direction ensuite pour le législateur. Sur les modalités pratiques, on n'est pas rentré dedans, ce n'est pas notre rôle. Très clairement, on écoute, entre guillemets, les enfants qui souhaitent avoir accès. C'est quelque chose qui se mettrait en prospectif. Bon, et ensuite, il faudrait bien sûr informer les donneurs de ce nouveau type de procédure, avoir par exemple deux choses, soit un donneur qui accepte finalement d'avoir un contact avec quelqu'un qui est issu de son don, ou bien, première hypothèse, et à ce moment-là les choses peuvent être organisées, deuxième hypothèse, le donneur ne souhaite pas, pour des raisons qui sont analysées. Je comprends bien qu'il puisse y avoir un désir de retrouver le père biologique. Je comprends aussi que le père biologique, il donne, il n'est pas non plus dans un processus de créer un enfant à titre personnel. Hein. Il donne aux autres, il donne à quelqu'un d'autre, il donne à un couple. Bon, et bien s'il refuse, et bien qu'il y ait un certain nombre d'informations, ce que j'appellerais un package entre guillemets d'informations. Je dirais à construire qui permettent à l'enfant ou à l'adulte qui est issu de ce don, bah, d'avoir un certain nombre d'informations sans pouvoir retrouver finalement, en tout cas dans un premier temps, le donneur. Donc voilà. Après, ça demande à être vraiment étudié très précisément sur les modalités pratiques, ce que nous n'avons pas fait parce que nous n'avions pas le temps de le faire. On a voulu donner une direction.
Cette question sur franceinter.fr. J'ai 25 ans, je suis homosexuel, j'ai peur que la réouverture des débats PMA-GPA soit une nouvelle fenêtre ouverte pour la manif pour tous et consorts. Après avoir subi leur discours au relent homophobe pendant toute la période de mariage pour tous, etc., j'ai peur d'une nouvelle brèche qui s'ouvre dans le débat à venir. Quel cadre sera mis en place dans le cadre de la discussion de cette loi afin d'éviter les dérives subies pendant le mariage pour tous? Alors c'est un peu compliqué cette question, Jean-François Delfrécy, mais est-ce que le débat vous paraît parti pour être serein? En gros, c'est un peu ça le sens de la question.
Écoutez, à la suite des états généraux, on avait bien distingué ce qu'était l'opinion de nos concitoyens sur ce problème de la procréation et sur celui de la fin de vie. Très clairement, sur l'aspect de la procréation, il n'y a pas de vrai consensus. Alors que sur la fin de vie, il y a un long parcours partagé par les, qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure.
Mais même entre vous, vous dites qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que les débats ont été...
Non, au niveau du CCNE, bien sûr, et c'est normal, le CCNE est aussi un reflet, dans une certaine mesure, de la société. L'idée n'était pas d'arriver à un consensus, mais l'idée, et là où on est arrivé, sur tous ces sujets, était d'arriver à avoir un assentiment majoritaire, c'est-à-dire finalement la construction d'un processus d'une pensée commune, et sur un certain nombre de sujets. Mais même au sein du CCNE, nous avons eu, en effet, des opinions qui étaient différentes. Alors après, je crois qu'il va falloir réexpliquer les enjeux qu'il y a autour de l'AMP et de l'ouverture de l'AMP, et qui sont pas blancs et noirs, où on essaie de sortir en effet qu'on rentre dans un dialogue et qu'on ne sorte pas dans uniquement des prises de position sans écouter les arguments de l'autre. Bon, ça va être difficile. On est dans un temps maintenant où on est un temps du politique et d'une décision politique.
Arnaud, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je souhaitais aborder la question de la gratuité. Donc le Conseil vient de rendre sa décision sur une ouverture à des personnes non stériles. Aujourd'hui, la PMA est gratuite et prise en charge au titre, j'imagine, d'une maladie ou maladie, oui. Donc avec.
Enfin, les prises en charge.
La prise en charge. Ce nouveau droit donc ouvre à d'autres personnes qui ne sont pas affectées de stérilité. Est-ce que la question de la gratuité a été soulevée ou est-ce qu'elle est acquise de fait? Et quel est l'état des lieux sur cette question-là, en fait?
Arnaud, merci beaucoup. Jean-François Delfrécy, est-ce qu'on a évoqué cette question-là?
Alors, je vais
faut-il faire une différence?
C'est ça que ça dit aussi. Je vais élargir le débat en disant que, en effet, c'est quand on prend une décision, en tout cas des opinions qui vont vers l'ouverture sur l'AMP, sur l'utilisation de nouveaux tests génomiques, sur certains aspects également finalement l'accès et l'organisation d'un cadre pour l'accès aux origines, tout ça c'est de l'argent. Puis de l'autre côté, donc on est dans l'innovation, dans le nouveau. Et de l'autre côté, on a ce sujet autour de la fin de vie qu'on évoquait tout à l'heure, où on réclame également un plan fin de vie avec un certain nombre de moyens qui sont à mettre sur les soins palliatifs. On est là donc dans un sujet complexe qui est finalement que la France refuse en général de choisir parce qu'elle considère que tout est prioritaire et que dans le domaine de la santé, on doit évidemment avoir tout de suite et le mieux possible. Et en sachant que les enjeux en santé vont devenir de plus en plus grands au niveau économique. Et que donc, il y a une vraie question, et qu'on va aborder au cours du CCNE sur les mois qui viennent, autour de ces aspects d'économie et de santé, et des choix économiques qui posent eux-mêmes
Monsieur
des problèmes.
Très concrètement, le sens de la question d'Arnaud, c'est faudra-t-il faire une différence entre les couples hétéros et les couples homo?
Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Mais je voulais élargir le débat pour que vous compreniez tous que ces enjeux économiques.
On a bien compris qu'il y avait des enjeux économiques, mais du coup, parce qu'il y a des enjeux économiques, est-ce que ça veut dire qu'on traite les couples hétéros et les couples homo différemment?
Les couples, c'est pas entre couples hétéros. Les couples hétéros sont pris en charge parce qu'il y a un problème médical. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Ils sont entre autres couple hétéro, mais ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Bon, et si on ouvre sur l'AMP, je pense que c'est une discussion qui va se poursuivre. Mais disons que si on ouvre sur l'AMP, sur les femmes seules et les couples de femmes, oui, il faudra probablement le prendre en charge.
D'accord, aussi, il faudra qu'on ne fasse pas de différence entre les deux. Daniel Messager.
Alors, en termes de prise en charge, on peut aborder aussi un autre aspect qui est l'autoconservation des ovocytes. Vous avez ouvert dans votre avis cette possibilité d'autoconservation des ovocytes. En deux mots, donc, ça permet à une femme encore jeune de faire congeler ses ovocytes pour les utiliser plus tard parce qu'elle n'a pas trouvé le père à ce moment-là et qu'ensuite, elle risque d'avoir des problèmes pour se retrouver enceinte. Donc, est-ce que ça aussi, ça pourrait être pris en charge éventuellement? Et puis, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis finalement, puisque dans l'avis précédent, vous y étiez opposé à cette ouverture?
Bon, on était nuancés, c'est-à-dire que finalement, voilà, sur ces sujets, il y a des nuances au sein du CCNE, mais néanmoins, on avait évoqué l'hypothèse d'une ouverture, il y avait même une position minoritaire qui s'était
Oui, mais enfin, vous aviez dit non dans l'avis précédent, et là vous dites
Je rappelle que
oui.
Notre avis, là maintenant, nous ne sommes pas une tête de linotte, hein, l'avis actuel, il est fondé sur
pas
quoi ?
Tous.
Il est fondé sur à la fois la position du CCNE, ses positions antérieures, et ce que nous avons entendu au cours des États généraux. Hein. On était là pour entendre, pour écouter la vision citoyenne. Et cette occasion, on a entendu à la fois des associations de femmes, nuançant, discutant le problème de l'autonomie, et puis un certain nombre de sociétés savantes, médicales, de gynécologues, nous disant que peut-être les aspects médicaux étaient certes lourds, et ça reste lourd, hein, avec une ponction d'ovocyte, une échographie, hein, c'est pas non plus très simple, il faut pouvoir le dire aux jeunes femmes, mais que c'était peut-être pas non plus aussi lourd qu'on avait voulu le dire. D'où cette nuance. Et nous allons, dans cet avis, donc vers une position qui est de dire d'ouvrir sans forcément recommander, parce qu'il y a encore une série de questions qui se posent. Alors, si en effet, si ça s'ouvre, c'est avec une prescription médicale, hein, c'est après une consultation médicale qui pèse, qui explique, qui pèse les risques, etc. Et donc, s'il y a une prescription médicale, il doit y avoir une prise en charge.
Mais s'il y a prescription médicale,
je me permets d'insister sur un point parce que qui est insuffisamment connu, c'est que l'autoconservation ovocytaire est une réponse. Il y a d'autres réponses qui sont possibles. J'insiste sur le fait qu'en France, il n'y a aucune information pour les jeunes femmes actuellement, pour bien qu'elles distinguent ce qu'est l'âge de la sexualité, ce qu'est l'âge endocrinien et ce qu'est l'âge de la procréation. Et qu'elles font un doux mélange entre les trois phases, alors que malheureusement, l'âge de capacité de procréer est beaucoup plus réduit que les deux autres phases. Et que on ne leur explique pas toujours jusqu'à quel point elles peuvent attendre. Et que malheureusement, on n'a pas de très bons tests médicaux. On commence à avoir un certain nombre de bilans qui permettent d'avoir une certaine forme d'estimation de la capacité qui reste à procréer. L'âge est un des éléments évidemment importants, mais c'est pas le seul. Il y a d'autres éléments qui jouent. Et que ceci n'est pas expliqué à nos jeunes femmes françaises. Donc indépendamment de la position sur l'autoconservation, restons aussi simples. Et que le message d'information par rapport à nos jeunes femmes est un élément essentiel.
Ben on peut leur dire alors qu'effectivement, après 35-36 ans, il y a quand même une chute de la production d'ovocytes et que si elles veulent un enfant, il faut s'en préoccuper très sérieusement. Pas d'injonction, une information.
Et c'est en partie le sens de la question de Régine. Bonsoir Régine.
Bonsoir.
On vous écoute Régine, allez-y, soyez la bienvenue.
Merci. J'appelle parce que ma fille est mariée. Et elle souhaite avoir un enfant, et son mari est beaucoup plus âgé qu'elle. Donc lui, il est atteint par la limite d'âge, donc on ne peut plus faire de prélèvement de spermatozoïdes chez lui, la loi l'interdit. Et ma fille n'a que 30 ans, donc elle aussi est en souffrance, elle souhaiterait avoir un enfant. Et donc on trouve dommage que la loi actuelle, on cherche à ce que les femmes seules puissent avoir des enfants, les femmes homosexuelles puissent avoir des enfants, et ma fille qui, elle, se retrouve mariée, est bloquée par l'âge de son mari.
Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas droit à la PMA, elle, en fait, votre fille?
Parce que son mari est atteint par la limite d'âge, donc elle voudrait un enfant avec son mari. Donc on aimerait aussi que la loi, elle soit un peu plus souple au niveau de l'âge des messieurs. Mmh. Parce que les femmes...
On a bien compris ce que vous disiez, effectivement.
Au niveau de leur âge, ça on comprend. Mais les maris, il y a des messieurs qui ont des enfants à 60 ans. Hein.
Oui, absolument.
Pourquoi pour les prélèvements, 55 ou 56 ans, je crois, et après, c'est fini.
Merci Régis
oui,
pour votre question.
Vous avez raison.
Vous l'avez évoqué, ça, monsieur Delphes?
Oui, il y a une limite d'âge qui est pas dans, je pense pas qu'elle soit dans la loi, elle est dans la pratique entre guillemets des équipes qui s'occupent de ce type de PMA et avec à la fois sur l'âge et la qualité de spermatozoïdes et donc la capacité de réussite entre guillemets qui peut y avoir pour ce type de PMA et puis probablement aussi avec une idée de cette différence d'âge qui pourrait pousser pour l'éducation d'un enfant à avoir un père beaucoup plus âgé. Mais bon, c'est une vraie question. On l'a pas abordée pour le dire la réalité, mais c'est une vraie question qui peut être remise à la discussion, je dirais, dans la construction de la loi. J'en profite pour dire que contrairement à ce qu'on pense, la PMA est à la fois une super réussite. C'est quelque chose qui a beaucoup apporté à un certain nombre de couples qui étaient en situation de difficulté, quelle que soit une fois de plus la nature de ces couples. Mais le taux de réussite n'est pas si important que ça. Il est de l'ordre d'environ entre 50 et 55%. Il dépend bien sûr des équipes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas complet. C'est-à-dire qu'on manque encore d'un certain nombre d'informations médicales et scientifiques sur qu'est-ce qui se passe dans les premiers moments de la gestion, de la gestation et des premiers jours d'un embryon. C'est la raison pour laquelle, et on n'en a pas du tout parlé, mais nous en parlons dans notre avis, que la recherche sur l'embryon est aussi un élément important qui va permettre d'apporter un certain nombre d'informations pour tenter d'améliorer ce taux de réussite de la PMA.
Effectivement, oui, à la recherche sur les embryons surnuméraires. Bonsoir Claire, pardon.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, moi j'appelle parce que en fait, je reviens sur le premier sujet, c'est rien à voir avec la PMA. Moi, je travaille dans un service de soins de suite court séjour gériatrique, où on connaît bien la loi Castleonetti, puisqu'on a quand même des gens qui arrivent, qui sont en fin de vie, on connaît bien, enfin on l'applique, on fait des réunions polydisciplinaires de décision pour savoir quoi, enfin quelle décision prendre et quelle mesure mettre en place. Nous, en fait, là où moi je suis en difficulté, où mes collègues sont en difficulté, c'est que nous avons aussi des lits de diagnostic sur des personnes qui ont des maladies neurodégénératives, entre autres des démences. Donc dans notre service, nous avons des gens qui sont au stade ultime de la démence, mais nous avons surtout des gens qui arrivent et qui sont avec une démence légère à moyenne, qui sont face à ce qu'ils vont devenir sur l'évolution de la maladie. Et nous, on n'a pas de réponse quand ces gens nous disent « moi, je veux pas être comme ça ». Qu'est-ce que je fais? Comment je peux ne pas devenir comme ça? Est-ce que vous pouvez m'aider à mourir? Et ça m'a encore arrivé il y a 15 jours où un monsieur était venu pour un diagnostic, il commençait vraiment à perdre la mémoire et il nous demandait de lui filer un grand coup de marteau dans la tête ou un coup de fusil entre les deux yeux pour ne pas devenir comme ça. La dame de la chambre d'à côté, qui elle était au stade de la démence, où elle ne se rappelait même plus son prénom, quoi.
Merci pour ce témoignage, Claire. Pardon de vous couper pour que Jean-François Delfrécy puisse vous répondre. C'est un peu ce que vous disiez aussi sur ces pensées sur lesquelles la loi ne peut pas répondre. En fait, c'est une vraie question que pose Claire.
Non, c'est une vraie question. Il y a le sujet que vous évoquez. Il y a un autre sujet qu'on commence à voir maintenant, c'est les polypathologies, c'est-à-dire des personnes souvent âgées qui sont atteintes par de nombreuses pathologies, dont aucune n'est potentiellement mortelle à court terme, mais dont la conjonction fait qu'elles n'ont plus très envie de vivre. Et c'est un vrai sujet. À l'inverse, sur le cas précis que vous évoquez, vous le savez vous-même, hein, on n'a pas de délai c'est une maladie évidemment grave, c'est une maladie qui est très lourde, mais on n'a pas de délai entre guillemets. Et vous imaginez, enfin il faut quand même qu'on soit d'une prudence extrême et que vous le soyez aussi avec l'ensemble des équipes. Parce que j'ai connu ça à une période sur une maladie grave aussi, sur laquelle brutalement on a trouvé un traitement, et voyez que ça peut changer, et que le progrès médical aussi modifier notre vision. C'est un des grands échecs pour l'instant, hein, c'est la prise en charge de ces maladies démentielles de la personne âgée. Mais est-ce qu'on va rester sur cet échec? Peut-être pas, et en tout cas on ne le souhaite pas.
Allez, je suis jeune médecin, je travaille en partie en réanimation, je côtoie la mort quasi quotidiennement, j'applique les soins palliatifs, je refuse de mettre à mort, ce sont les termes employés par notre auditeur. Des gens qui ne sont pas moribonds, c'est ce qui est écrit dans le serment d'Hippocrate. Est-ce que nous, médecins, devons nous tuer des gens qui veulent mourir? Voilà, toute la complexité effectivement résumée aussi dans la bouche des médecins, ce qui nous fait dire, Daniel, on l'a dit plusieurs fois au téléphone, sonne, directive anticipée, directive anticipée, directive anticipée. Peut-être que c'est ça aussi l'idée, la
solution.
Oui,
encore faut-il que les médecins prennent en compte ces directives anticipées. Selon la loi, ils sont obligés de le faire. Je vous citerai une enquête qui est sortie récemment, c'était auprès de jeunes médecins généralistes. J'ai les chiffres sous les yeux, justement, à la question « Est-ce que vous appliqueriez les directives anticipées de vos patients ?» Il n'y en avait que 38% qui disaient qu'ils le feraient et un nombre à peu près identique qui disait « Si je suis en accord avec le patient ». Mmh. Donc il y a aussi encore beaucoup de chemin à faire pour une réelle prise en compte de ces directives anticipées.
Et c'est ce que vous disiez, Jean-François Delfrécy, sur le fait qu'il faut plus d'informations autour de la loi Claeys-Leonetti pour les patients potentiels et aussi visiblement pour les médecins.
Pour les médecins.
Et c'est pas une question de génération quand on parle des médecins d'ailleurs, vraisemblablement. Merci beaucoup, en tout cas merci de votre présence dans le téléphone sonne, merci à tous pour vos appels et portez-vous bien.